C'est une très grosse erreur. Comment ont-ils pu faire une si grosse erreur?
How could they make such a mistake?
Perplexité, sidération des habitants de Dunoon en Écosse, là où réside Guy. C'est l'homme que l'on a pris pendant quelques heures pour Xavier Dupont de Ligonnès.
À Rouen, les habitants commencent à en avoir plus qu'assez de manifester pour obtenir des réponses sur la dangerosité, ou pas d'ailleurs, de la pollution liée à l'incendie de l'usine Lubrizol.
La guerre, les Kurdes sous les frappes de la Turquie, nous rejoindront l'envoyé spécial d'Europe 1 à la frontière syrienne.
Les tirs sont juste à côté de nous. Nos voisins ont été tués, nous ne savons pas où aller. Mais on part, vite.
Et puis une visite de l'usine qui fabrique le vaccin contre la grippe. 200 millions de doses produites en Normandie. Reportage exclusif à suivre.
Merci d'écouter Europe 1. Bonne journée à toutes et à tous.
Europe 1.
Tout le monde a cru que Xavier Dupont de Ligonnès avait été arrêté 8 ans après la mort de sa femme et de leurs 4 enfants. La police écossaise a même dit que les empreintes digitales correspondaient. Et pourtant, l'homme arrêté à Glasgow, eh bien, ce n'était pas lui. Ce monsieur, Guy, partage sa vie entre la France, les Yvelines, et l'Écosse, dans le village de Dunoon. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, Pauline Jacquot.
Presque personne ici n'avait entendu parler de Guy avant ces dernières 24 heures. Mais aujourd'hui, dans les petites ruelles du centre-ville ou à la sortie des pubs, beaucoup évoquent cette incroyable histoire. Cet homme que la police a confondu avec un autre, et pas n'importe qui, le fugitif le plus recherché de France. Il habite juste à côté de chez moi à Lanstomy, en pleine discussion avec des amis.
Oui, mais juste de l'apprendre à la télévision.
Mais il est français, c'est ça? Cet homme innocent, il est français.
Oui, c'est celui qui s'est fait arrêter à l'aéroport.
Il doit être vraiment sous le choc. Nous le sommes tous. C'est une très grosse erreur. Comment ont-ils pu faire une si grosse erreur?
Et il n'y a pas que l'homme qui soit marqué par cette arrestation spectaculaire. Autour de lui, tous les membres de sa famille semblent être touchés. Et en premier lieu, sa femme, bien sûr, Marie, qui est écossaise. Lorsqu'on s'éloigne du centre-ville, 1 kilomètre plus loin, les rideaux du petit pavillon sont tirés. Les voisins restent silencieux, aucun ne les connaît vraiment bien. Marie et Guy, c'est un couple discret, dit l'un d'entre eux. Ils profitent de leur jardin, de retraités, qui se sont installés il y a un peu plus d'un an dans ce quartier résidentiel. Un quotidien jusque-là tranquille, bouleversé, malgré eux, ces 2 derniers jours. Dunoon, Pauline Jacquot, Europe 1.
Et dans le journal de 8h30, nous irons à Glasgow rejoindre l'autre envoyé spécial d'Europe 1 pour tenter de comprendre ce qui a amené à cette incroyable méprise policière.
Depuis mercredi, c'est de nouveau la guerre ouverte pour les Kurdes de Syrie.
38 civils tués selon l'ONG Observatoire Syrien des Droits de l'Homme et 81 combattants kurdes morts sous les frappes de l'armée turque. La France annonce qu'elle suspend tout projet d'exportation vers la Turquie de matériel de guerre susceptible d'être employé en Syrie. Mais cela n'empêchera pas les combats actuels qui se déroulent, notamment à partir de la ville d'Akçakale à la frontière turco-syrienne. Jean-Sébastien Soldaini est sur place, il est l'envoyé spécial d'Europe 1.
Le mur de la maison de Bedir fait face à la frontière, les barbelés sont à quelques mètres. De l'autre côté, les forces kurdes se défendent et tirent en direction de la ville. Il y a 2 jours, ce père de famille s'est retrouvé avec un obus dans sa cuisine.
Il y a quelques jours, tout était très calme. Et maintenant, on entend des explosions. On était conscient que le silence qui régnait ici avant l'attaque annonçait un danger. Alors c'est vrai, j'ai perdu une partie de ma maison. Je peux vivre sans maison, mais pas sans mon drapeau et mon pays.
Des haut-parleurs diffusent dans les rues la rhétorique du président Erdogan. Les combattants kurdes sont considérés comme terroristes. Hamza ne rentre pas dans ce débat. Il quitte la ville avec les 11 membres de sa famille.
Les tirs sont juste à côté de nous. Nos voisins ont été tués. Pour être honnête, nous ne savons pas où aller. Mais on part, vite. On prend juste ce dont on a besoin. On laisse une grande partie de nos affaires à la maison.
Autour de lui, les rues se vident alors qu'en face, le Kurdistan syrien replonge dans les combats. Akçakale, Jean-Sébastien Soldaini, Europe 1.
Et une marche blanche à 11h ce matin au départ du Pré Saint-Gervais en Seine-Saint-Denis, un peu plus d'une semaine après la mort d'un lycéen, un adolescent de 15 ans qui a été poignardé dans la commune des Lilas. Et dans cette affaire, 3 jeunes de 14 et 15 ans sont en détention provisoire.
Ce matin, dans le journal du dimanche, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, indique que 20 à 30 incidents graves sont recensés chaque jour en milieu scolaire et que 1500 élèves par an manifestent un comportement très violent dans les collèges et les lycées.
À Rouen, où les ministres défilent les uns après les autres pour rassurer et où les habitants défilent, eux, pour protester contre le manque d'informations, c'est là que nous nous rendons maintenant.
Manifestation hier après-midi pour demander une plus grande transparence après la catastrophe industrielle et la pollution de l'usine Lubrizol. Hélène Terzian a suivi le cortège pour Europe 1.
Soyez clair, dites-nous vraiment ce qu'on risque, ce qu'on a risqué, ce qu'il y a dans l'air en ce moment. Dites-nous exactement. Et il est temps, oui.
C'est pour crier ce message aux autorités que Florence est redescendue dans la rue. Plus de 2 semaines après l'incendie, le flou entretenu par les pouvoirs publics, dit Elisabeth, impacte toute la vie quotidienne des Rouennais.
Comment ça se fait qu'encore maintenant, des gens se demandent s'il faut mettre leurs enfants à l'école, vous imaginez? Ma petite fille, par exemple, est-ce qu'il ne fallait pas être davantage confinée? Enfin, je ne sais pas, c'est toutes ces questions-là. On a toujours. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, c'est toujours les mêmes questions. C'est pour ça, moi, que je me mobilise, en fait.
C'est aussi face aux informations qui, dit-elle, tombent au goutte à goutte, qui sont parfois contradictoires, que Anne bat de nouveau le pavé. Alors, si l'État veut apaiser la colère de la population, elle insiste, il doit faire preuve de pédagogie.
Pas l'impression d'un puzzle, on cherche tous des informations et on a tellement peu de compétences qu'à mon avis, on a aussi des informations fausses de notre côté. Chercher de notre côté des analyses, des gens spécialistes, monter des associations, enfin, tout ça devrait être en charge par la région, l'État, enfin, je sais pas, les instances pour lesquelles on a voté et qui ont une part de responsabilité dans l'information de la population.
Une nouvelle manifestation est d'ores et déjà prévue le 26 octobre prochain, un mois jour pour jour après l'incendie. Rouen, Hélène Terzian, Europe 1.
Et à propos de cette affaire Lubrizol, sachez que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, sera l'invitée du grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos de 10h à 11h en direct ce matin.
Et de santé, il sera question aussi dans la suite de ce journal, puisque Europe 1 a pu visiter en exclusivité l'usine qui fabrique les vaccins contre la grippe, la prochaine grippe de l'hiver qui arrive. Reportage dans un instant.
Europe 1, il est 8h07.
Europe 1, Bernard Poiret.
Europe 1.
Reprise de l'information avec François Geffrier et Bernard Poiret.
François, on ne peut pas dire qu'on attende ça avec une grande impatience, mais enfin, le fait est que la période de la grippe se rapproche à grands pas.
Cette année, les pharmaciens volontaires pourront vous vacciner contre le virus, si vous le souhaitez. Cela concerne en priorité les plus de 65 ans et les femmes enceintes ou ceux qui souffrent de certaines maladies. Mais ces vaccins, il faut d'abord les produire. Pour Europe 1, Jean-Gabriel Bourgeois a pu visiter en exclusivité l'usine du laboratoire Sanofi Pasteur qui fabrique à Val-de-Reuil, en Normandie, les doses acheminées ensuite dans 150 pays.
Nous sommes en train de remplir cette semaine les dernières doses de ce vaccin grippe.
C'est dans d'immenses cuves stériles que le vaccin anti-grippe est conservé au froid avant d'être injecté mécaniquement dans les seringues. 30 000 doses produites par heure, une cadence soutenue, supervisée par l'œil humain et contrôlée par ordinateur, inspectée jusqu'au moindre défaut sur le verre de chaque seringue. C'est l'étape du Mirage. Philippe Juvin est le pharmacien responsable de Sanofi Pasteur.
Mirer, c'est regarder à travers pour s'assurer que c'est exempt d'un défaut. À partir du moment où l'image de la caméra est différente de l'attendue par l'ordinateur, la seringue sera éjectée.
Moins de 3% de vaccins ne passent pas tous les contrôles de qualité. Le défi cette année, assure Philippe Juvin, c'est d'éviter la pénurie. L'an dernier, le gouvernement avait dû commander de nouveaux vaccins en décembre.
Pas de risque de pénurie de vaccins cette saison. Les précommandes effectuées par les pharmacies ont augmenté de 10 à 15%. Nous avons nous-mêmes pris une marge de sécurité afin d'avoir l'assurance de pouvoir servir correctement la demande du marché pour cette saison.
Et ce qui explique la hausse de la demande, c'est aussi qu'à partir de cette année, tous les pharmaciens volontaires en France pourront vacciner leurs clients contre la grippe. Val-de-Reuil, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.
Et avant d'ouvrir la page des sports, évoquons l'histoire et l'archéologie pour terminer ce journal avec cette découverte majeure faite tout récemment dans le secteur de Narbonne.
Un cimetière du 1er siècle après Jésus-Christ, 1000 tombes miraculeusement préservées. Narbonne était l'un des plus grands ports de Méditerranée à cette époque. Pour Europe 1, l'Ordre d'Autriche est allé voir le chantier autour de cette nécropole et rencontrer ceux qui y travaillent.
C'est une chance inouïe dans sa carrière de passer sur une fouille de cette importance-là.
Il faut creuser à 2,50 m de profondeur. 400 tombes ont déjà été mises au jour. Ici sont enterrés des esclaves, mais aussi beaucoup d'esclaves affranchis au niveau de vie plus élevé. Ce qui le prouve, c'est leur tombe. On y a trouvé des fioles de parfum, des bijoux en or, de la vaisselle en verre. Et à l'extérieur aussi, ces tombes sont intéressantes, explique Valérie Bell, la responsable scientifique.
Nous avons de petits monuments, des plaques funéraires en marbre, donc de qualité. En général, ils exercent des activités économiques, par exemple responsables de la conduite d'un domaine ou travailler aussi dans le monde de la boutique, du commerce.
Et le plus étonnant, précise Jérôme Hernandez, archéologue à l'INRAP, c'est que sur chaque tombe, des tuyaux ont été fabriqués avec des morceaux d'amphore en terre cuite pour garder un contact avec le défunt.
On vient régulièrement sur la tombe et on va partager
le vin, on va partager un repas funéraire. Alors c'est pas tant de nourrir le défunt que la volonté de perpétuer sa mémoire.
30 archéologues vont fouiller ce site exceptionnel jusqu'à l'été prochain, avant que ne soient construits ici des immeubles d'habitation.
Reportage de l'Or d'Autriche.
À 8h12, c'est toute l'info sportive avec François Geffrier.
Et ça commence par le football. Nous allons vibrer demain soir à l'unisson au Stade de France pour le match contre la Turquie.
Une victoire qualifierait les hommes de Didier Deschamps pour l'Euro 2020, le sélectionneur de l'équipe de France, qui peut compter sur un soutien en particulier, celui de l'ancien joueur et entraîneur Luis Fernandez.
Je suis un fan, supporter de l'équipe de France et de Didier Deschamps. Alors certes, c'est vrai, on peut éventuellement se poser des questions, certes, on peut être déçu par moments, mais depuis que Didier a repris cette équipe, elle nous a redonné de la joie, elle nous a redonné du plaisir. Le plus important, c'est de gagner. C'est de vous donner de la joie, de vous apporter quelque chose. Et je pense que... Alors c'est vrai qu'on attend plus, on voudrait plus, on aimerait les voir jouer par moments comme des Brésiliens, on aimerait tellement voir du beau jeu, on aimerait tellement... Je reste supporter de cette équipe de France, elle a gagné, elle a pris les 3 points. Maintenant, demain soir, il y aura ce match face à la Turquie. Ils vont terminer remarquablement bien le travail. Et cette équipe de France va se qualifier pour ce championnat d'Europe qui aura lieu cet été.
Luis Fernandez qui sera ce soir sur Europe 1 de 20h à 21h face aux auditeurs. Émission spéciale menée par Lionel Rosso. Quant au match France-Turquie, c'est donc demain 20h45 à vivre là aussi sur Europe 1.
Et il faut reparler aussi de cette extraordinaire performance du Kenyan qui a couru un marathon en moins de 2 heures hier.
Eliud Kipchoge, 42 km 195, 1h59 et 40 secondes. Alors il était aidé par des coureurs qui se relayaient devant lui pour lui indiquer la bonne allure. C'est pour cette raison notamment que ce record ne sera pas homologué. C'est ce que va nous expliquer notre consultant athlétisme Jean-Claude Perrin.
Il y a essentiellement un facteur, c'est le problème des lièvres et surtout de la répartition des lièvres puisqu'ils se sont alternés par fraction de kilomètre qui lui a donné la cadence. En plus, il y avait devant eux une voiture avec un dispositif de laser qui donnait au millième de seconde près la distance et le temps qu'il leur restait à faire pour être dans les points du record. Chose qu'on ne trouve pas pendant les compétitions officielles, mais une chose est vraie, c'est qu'un homme, deux bras, deux jambes, une tête très solide, a fait moins de 2 heures.
Jean-Claude Perrin au micro Europe 1 de Christophe Lamarre.
Et puis il y a le Grand Prix de Formule 1 au Japon qui est en cours.
Et qui se déroule à Suzuka malgré le typhon Agibis. Sébastien Vettel sur Ferrari est parti en pole position, mais actuellement c'est un duo de Mercedes qui est en tête, Lewis Hamilton suivi de Valtteri Bottas.
Merci beaucoup, ceci conclut le journal de 8h de François Geffrier.